D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Il était une fois un petit rien. Et aussitôt, l'histoire semble finie. Petit et rien. Le rien n'a pas d'histoire, qu'il soit petit ou grand. Et pourtant, ce petit rien a eu beaucoup d'aventures sous son nom américain de Little Nemo, en chantant des générations d'Américains depuis sa création en 1905. C'était en bande dessinée, et même une des premières bandes dessinées américaines. Elle a eu une grande influence chez bien des bédéistes jusqu'à nos jours. C'était la mode pour les personnages dans ces années-là de s'appeler Nemo. Un autre Nemo avait eu un grand succès en littérature, enfin disons dans le roman d'aventure, le capitaine Nemo. C'était dans 20 000 lieues sous les mers, 35 ans avant, en 1870. Qui sait ? Le père de Winsor McCay, puisque tel est le nom du créateur de Little Nemo, avait peut-être lu une traduction du livre de Jules Verne. Le capitaine Nemo, c'est un ingénieur, un mâle, un poilu, un génie, un qui s'aventure jusqu'au fond de l'océan. Little Nemo, et qui sait, décidément, si son nom n'est pas une réponse ironique au grand héros pédant de Jules Verne, c'est un petit garçon, vierge de poils et de prétentions, qui ne sait rien, un raté d'une certaine façon. Charmant raté, puisqu'il n'a encore rien fait, étant un enfant, et qui subit des aventures sans sortir de son lit. En effet, jusqu'en 1914, les lecteurs des journaux où McCay a publié ses 421 planches ont assisté aux aventures durant son sommeil de Little Nemo, le seul héros en barboteuse de l'histoire. L'argument est simple. Dans chaque planche, Little Nemo s'endort dans son lit et tente, dans ses rêves, d'aller retrouver la princesse du pays du sommeil. Il y est empêché par divers cauchemars dont il se réveille toujours avec bonheur. Et c'est charmant cette petite enfance, cette barboteuse. La faiblesse était donnée à admirer au monde. Je suis très pour l'attention à la faiblesse. On admire trop la force, on lui donne toutes les chances. Ceci se passe aux États-Unis, n'est-ce pas ? Le pays des cow-boys, dit-on. Sans doute, le pays des cow-boys est aussi celui d'un enfant rêveur. Quel est le secret professionnel de Little Nemo et de l'enfance en Amérique ? Je reçois pour en parler Benoît Peters, écrivain, historien et théoricien de la bande dessinée, qui a participé à l'ouvrage collectif Little Nemo, un siècle de rêves. Benoît Peters, pouvez-vous pour commencer m'en dire un peu plus sur le créateur de Little Nemo, Winsor McCay ?
Alors, Winsor McCay est un personnage un petit peu entouré de mystères. On se dispute encore sur le lieu de sa naissance et la date de sa naissance. On disait parfois 1867, lui-même s'est rajeuni. On penche aujourd'hui pour 1869. Il est né près du lac Michigan, sans doute côté canadien, mais il est plutôt considéré comme un dessinateur américain. C'est un autodidacte. Il commence à dessiner dans les fêtes foraines. C'est un dessinateur extrêmement rapide qui parvient en quelques traits à faire des portraits. Donc il vend ses portraits dans les fêtes foraines, il dessine des affiches, des enseignes. Et ce monde forain va se rejoindre un petit peu pour lui avec le monde des expositions universelles. Donc il voit d'abord des images, mais il va visiter l'exposition universelle de Chicago. Qui devait être en 1892 et qui a pris du retard, qui a été en 1893. Elle était là pour l'anniversaire de Christophe Colomb. Donc c'était la Columbian Exhibition. Et là, c'est une architecture onirique qui se développe. Une architecture néoclassique, mais une architecture surchargée, on pourrait dire un peu viennoise, de ce point de vue-là, mais qui le fascine complètement. Ce monde est une architecture provisoire conçue pour le plaisir. Et puis, quand il ira à New York, c'est le moment évidemment où les gratte-ciel commencent à pousser, mais c'est aussi le moment de Coney Island et de toute cette civilisation du loisir qui se développe.
Coney Island étant l'endroit où avaient lieu les fêtes foraines, n'est-ce pas ?
Les fêtes foraines, et puis c'est un peu la plage de New York, c'est le lieu du divertissement, du plaisir, d'un plaisir qu'on découvre. Et au fond, ça, ce monde-là, ce monde de l'artifice et du plaisir, ce monde forain, c'est celui qui restera celui de Little Nemo. Alors, très vite, il publie dans les journaux. Et c'est un moment essentiel parce qu'au fond, la presse américaine, qui s'adresse en partie à des semi-analphabètes, arrive à bien reproduire l'image.
Pourquoi il écrivait dans quel type de journaux s'il écrivait pour des journaux
d'analphabètes ? Il écrit dans la grande presse américaine, dans le New York Herald et dans beaucoup d'autres revues. Simplement, dans cette presse, l'image a une place énorme, le dessin a une place énorme. C'est un moment où on séduit les lecteurs à travers les dessins, c'est un moment où on commence à maîtriser l'imprimer en couleur. Et donc, il y aura cette rencontre entre l'imaginaire de cet autodidacte, de cet homme fou de dessin, et les besoins de la grande presse, et notamment le besoin des Sunday pages, donc des pages du dimanche. Les suppléments du dimanche sont très épais. On a vu, à peu près au moment de la naissance du cinéma, vers 1895-96, l'apparition de pages en bande dessinée, notamment avec un personnage très célèbre qui est le Yellow Kid, d'Aotko. On a cru longtemps que c'était la naissance de la bande dessinée. En fait, il y a eu plusieurs naissances. Mais en tout cas, c'est la naissance grand public aux États-Unis.
Et le succès était... Elle était antérieure en Europe, car vous avez écrit sur Töpffer qui...
Voilà. En fait, la bande dessinée, elle remonte aux années plutôt 1830. Elle est plutôt contemporaine de la naissance de la photo que de la naissance du cinéma. Sauf qu'à ce moment-là, c'est Töpffer avec des albums. Et puis tout au long du 19e siècle, en France, avec Nadar, avec Gustave Doré... En Grande-Bretagne, on a une tradition, en Allemagne, avec Wilhelm Busch et Max und Moritz, on a une tradition qui finalement n'a pas été tellement rééditée. Alors que les Américains, fiers de leur tradition, ont dit qu'ils étaient les inventeurs de la bande dessinée, et ce patrimoine a été valorisé. Des historiens qui négligeaient un petit peu de se promener dans la presse ont dit, voilà, la bande dessinée est née avec le Yellow Kid en 1895. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'elle est plutôt née avec les histoires de Töpffer, admirées par Goethe, premier critique de cinéma. Il n'empêche que Little Nemo, ça reste vraiment un sommet des débuts de la bande dessinée. Il a été très populaire de son temps.
Donc tout de suite, Winsor McCay est engagé et tout de suite, il commence par Little Nemo.
Il commence pas par Little Nemo. En fait, il a d'abord publié de l'illustration dans la presse. Il publie une série très amusante qui s'appelle les Tales of Jungle Imp et qui sont des histoires animalières, on pourrait dire entre les histoires comme ça de Kipling et une sorte de variation sur Darwin et Lamarck, l'évolution des espèces. Donc, par exemple, comment le rhinocéros a-t-il eu sa corne, comment la tortue a-t-elle attrapé sa carapace, etc. Donc, chaque fois, en une page, mi-illustration, mi-texte, une variation humoristico-scientifique sur ces thématiques. Et c'est un des processus qu'on va retrouver tout le temps dans Little Nemo et qui est un processus très fin du 19e. C'est au fond une transformation quasi biologique. Le vivant se transforme. Dans Little Nemo, on aura constamment ça. On peut s'agrandir, se déformer. On voit des plantes ou des fruits devenir absolument gigantesques. Les animaux jouets d'une petite arche devenir des animaux vivants. Ça, c'est vraiment un des thème qu'il y a tout le temps chez Nemo. Mais au début, donc, c'est ces séries, et puis il en fait une plutôt pour adultes, Les cauchemars de l'amateur de Fondue au Chester, en noir et blanc, une série assez sombre de tonalité, très, très rude, dont Little Nemo sera la variante souriante, colorée et destinée plutôt aux enfants. Avec cette chose extraordinaire entre ces deux séries, c'est qu'on est exactement contemporain de Freud. Et de l'interprétation des rêves
on
de
va,
Freud,
on va
mais
y revenir.
on ne sait pas s'ils se sont lus mutuellement.
On va y revenir, Benoît Peters. Je voudrais que vous, avant, parce que vous êtes passionné, vous savez très bien de quoi il s'agit, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, que vous me décriviez ce personnage, à quoi il ressemble ce personnage de Little Nemo physiquement.
Alors c'était un petit garçon de 6 ans à peu près, tout mignon, les cheveux un peu ébouriffés. On le voit surtout dans son lit, parce que chaque scène débute dans le lit. Il doit se coucher. Simplement, dès que le sommeil le gagne, le sommeil est perturbé par le rêve. Le rêve peut être heureux. Il est généralement interrompu. Vous évoquiez tout à l'heure le rêve de retrouver la princesse, la petite princesse, une petite fille comme lui. Quand il la rejoint, le rêve s'arrête. Et à chaque fin de page, ce sont de très grandes pages avec 12, 14, 15 images, à chaque fin de page, on se retrouve dans le même lit. Nemo se réveille, parfois il tombe du lit, parfois les parents arrivent et lui disent encore ses rêves, encore ses cauchemars, quand donc vas-tu dormir tranquillement? Et donc parfois, d'une semaine à l'autre, d'un dimanche à l'autre, le rêve se continue, on a de longues séquences, d'autres fois, il est tout à fait autonome. Et Little Nemo, par certains côtés, malgré les anthologies remarquables de pages qui ont été publiées, Little Nemo n'est par certains côtés jamais aussi bien que quand on se remet dans les conditions initiales. Et je me souviens quand mes deux fils étaient petits, que j'avais trouvé une très grande édition qui les impressionnait, parce qu'elle était à peu près aussi grande qu'eux, à peu près à l'âge de Nemo, et je racontais les pages une à une. Et je crois que c'est la plus belle façon de faire découvrir cette série à un enfant, c'est de ne pas lui raconter toute l'histoire. On n'est pas du tout dans un imaginaire à la Tintin ou à la Spirou. On est vraiment dans l'unité de la page qui correspond au moment du sommeil.
Quelles pourraient être, si tant est qu'on puisse le savoir, les sources de Winsor McCay pour le personnage de Little Nemo? Parce qu'aux États-Unis, il y a un célèbre personnage de Washington Irving qui avait écrit en 1818 une nouvelle très célèbre là-bas qui s'appelle Rip Van Winkle, qui est l'histoire d'un homme qui dort pendant 20 ans. Il y a eu, je crois, en France, une bande dessinée qui s'appelait Petit Lucien au pays des rêves, dont on ne sait pas si Winsor McCay l'a vu. Est-ce qu'il y a eu une source ou pas, d'ailleurs?
Il y a d'autres dessinateurs de l'époque, eux, qui jouent sur le thème du rêve. Je pense que Winsor McCay était un homme assez peu adapté au réel, aux contraintes du réel. Il s'est inspiré de son fils Robert à l'âge de Little Nemo, qui ressemble indiscutablement. Évidemment, après, Robert a grandi, alors que Nemo garde le même âge. Ça, c'est un trait de beaucoup de héros de bande dessinée. Tintin lui-même n'a pas tellement vieilli. Winsor McCay était affublé, si j'ose dire, d'une épouse aussi ample que lui-même était fluet. Et il y a quelque chose d'assez amusant. Là, on pense quelquefois au dessin de Dubout, vous savez, ces petits messieurs à côté d'une épouse un peu dominatrice. On a l'impression que ce monde enfantin, ce monde un peu régressif, était une façon pour lui de se protéger de cette épouse dont nous savons qu'elle était extraordinairement dépensière, que plus elle grossissait, plus elle achetait des toilettes extravagantes. Ah, et donc Winsor McCay, lui, dessinait sans cesse. La mort de Winsor McCay est d'ailleurs très émouvante, on anticipe un peu, mais il est mort dans la soixantaine, en 1934, quelques heures après la paralysie de sa main droite. Il était à sa table, brusquement sa main ne lui obéit plus, il dit à sa femme: ma main, c'est fini, et le soir il est mort. Et cet homme a passé pratiquement toute sa vie à dessiner, non seulement des bandes dessinées, mais aussi des dessins animés, dont il est l'un des précurseurs, et qu'il dessinait entièrement seul. Ce qui est une folie pure. Oui, il n'y avait pas d'atelier. En fait, il invente le dessin animé en artisan, en faisant lui-même tous les intervalles, ce que, évidemment, l'industrialisation du dessin animé va abandonner tout à fait.
Est-ce que ces planches de Winsor McCay dans la grande presse étaient... Vous avez dit que c'était dans les suppléments du dimanche. Est-ce que c'était spécifiquement pour les enfants? Car il y a quand même quelque chose d'un peu étrange de voir dans de la presse pour adultes, après tout achetée pour des adultes, dans un pays qui était, Dieu sait, en train de se construire du capitalisme triomphant, de voir proposer pour héros quelqu'un qui ne fait rien, qui est un rêveur, et qui est, comme je le disais tout à l'heure, le contraire du cow-boy.
Mais n'oublions pas que la bande dessinée américaine naît avec le Yellow Kid, le petit garçon jaune, qui est un petit voyou par certains côtés, un peu plus âgé, peut-être 8-9 ans, entouré d'enfants. On a à la même époque aussi les Katzenjammer Kids, une autre bande, c'est traduit en français par Pim Pam Poum, une autre bande de gamins écervelés. Je crois qu'il y a un jeu sur le côté familial du journal pour le dimanche.
C'est devenu immédiatement très populaire.
Très populaire. Alors, Little Nemo a donné naissance à des figurines, à des adaptations théâtrales, au musical aussi. Et Winsor McCay, qui était un homme multitalent, présentait aussi des spectacles sur les scènes, le dessinait en direct, vraiment jouait avec toutes sortes de sortilèges. Donc c'était un personnage qui a été très très connu. Je crois assez peu traduit en France à cette époque-là.
J'ai trouvé une traduction de 1908, très récente, enfin presque immédiate, mais qui a dû être très mineure. Enfin,
oui, mineure, c'est-à-dire des pages ont été traduites, mais par exemple, Hergé que j'évoquais tout à l'heure, qui démarre lui en 1929, ou Alain Saint-Augan qui démarre un peu plus tôt, à ma connaissance n'ont jamais vu Little Nemo. Ce n'est pas quelque chose qui... C'est transmis parce que c'était la presse. Par contre, aux États-Unis, c'était décliné de journaux en journaux. Ça, c'est le début de ce qui fera le grand âge, l'âge d'or de la bande dessinée américaine. C'est la capacité de reprendre dans les journaux des mêmes groupes. On sait qu'il y avait à cette époque-là une rivalité entre deux grands patrons de presse, Pulitzer, qui donnera naissance au prix Pulitzer, et Hearst, William Randolph Hearst, qui servira à Wells de modèle pour Citizen Kane. Et ces deux hommes s'arrachent les dessinateurs, les payent très cher, sont jaloux l'un de l'autre, parce que les dessinateurs sont vraiment un des atouts commerciaux des journaux de cette époque-là, et parce qu'on décline, mais on le décline dans le monde anglo-saxon, et peut-être que la France n'a pas de journaux adaptés. Alors n'oublions pas aussi une chose intéressante, c'est qu'ils arrivent à reproduire assez bien les couleurs. Les couleurs sont créées, elles sont magnifiques, hein, les couleurs de Little Nemo, comme on les retrouve dans les éditions récentes aujourd'hui, elles sont créées directement avec les ouvriers imprimeurs. C'est-à-dire que Maquet donnait des indications et puis travaillait dans le choix des encres, etc. On est dans un monde sans télévision, un monde où le cinéma apparaît à peine et noir et blanc, couleur, et muet, oui, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'éclatant et le format est un élément essentiel. Je crois que reproduire Winsor Maquet en le réduisant, reproduire Little Nemo en le rapetissant, c'est d'une certaine façon lui faire perdre sa beauté.
Nous allons maintenant entendre la voix de Little Nemo, du moins telle qu'elle est interprétée dans un film qui a été tiré de la bande dessinée par Masami Hatta et William Hurt en 1992 sous le titre Little Nemo Adventures in Slumberland, qui est le titre même de la bande dessinée américaine.
But who are you?
I am a professor. I am a genius. You can call me Professor Genius. And this would be Bon Bon.
At your service? At my service?
We have been sent here on a mission by King Morpheus, the King of Slumberland.
King Morpheus? Slumberland?
Yes, indeed.
Yes, indeed. Don't forget the present from the princess.
I am not finished. Kindly wait your turn. His Serene Highness King Morpheus, the ruler of Slumberland and divine protector of everyone's good dream, and his daughter, Princess Camille, extend this invitation to Little Nemo to visit our Slumberland and be the official playmate to Princess Camille.
Gee, thanks.
Princess Camille is eagerly awaiting you. Well, shall we be going, young man?
Wait a minute. This princess is a girl? But I've never played with a girl. A girl? She's a princess. Doesn't matter. She's still a girl. Besides, I've never heard of Slumberland.
No one has ever been displeased with a royal invitation.
But what about the present? Present? What present? Well, her adorable marvelousness, Princess Camilla, sent a present for you. Boy, I love presents. A box of delicious dream treats.
Benoît Peters, pour en revenir au côté enfantin ou non de Little Nemo, est-ce que les planches ont une fin morale?
Il y a peut-être une ou deux concessions aux bonnes mœurs et au goût des parents, mais grosso modo, c'est un voyage dans la liberté, dans l'imaginaire, dans le délire même, dans un délire quelquefois inquiétant, car quand on voit les animaux prendre des formes gigantesques, on voit Little Nemo se transformer par exemple en mauvais dessin. Il y a un personnage qui commence à transformer le décor autour de lui, puis les autres, et Little Nemo se rend compte qu'il va lui-même être un mauvais dessin. Les parents apparaissent souvent sous un jour assez inquiétant, assez bizarre. L'univers glisse, dérape, le lit enjambe les gratte-ciels de New York. Non, c'est vraiment un univers qui fait la part belle à l'enfance, qui donne le sentiment d'une toute-puissance imaginaire de l'enfant, peut-être d'une revanche sur les pesanteurs du réel, sur le caractère austère de l'école. Je pense que c'est une école de liberté pour les enfants et ça devait être quelque chose de très très jubilatoire. Alors je crois qu'il y a vraiment un côté éternel enfant chez Maquet lui-même, et la manière dont il a géré sa carrière d'ailleurs est très bizarre. Il a adopté quelques comportements très infantiles, j'évoquais son épouse, mais même par rapport à William Randolph Hearst qui un jour essaye de le joindre sur une scène de théâtre. On ne passe pas au téléphone, on imagine ce que c'est, théâtre dans les années 1910, on ne passe pas Winsor Maquet parce qu'il est en train de préparer le spectacle. Hearst est furieux et dit: vous arrêtez la bande dessinée, vous arrêtez les dessins animés et le musical, je double votre salaire, mais vous ne ferez plus que les illustrations que je vous demande. Et il accepte. Et la dernière partie de sa carrière est moins forte créativement. Donc, un être à la fois libre dans sa tête et son imaginaire et peut-être assez soumis dans le réel, peu adapté finalement à la gestion d'une carrière, et même ce que je racontais sur le dessin animé à quelque chose d'un peu illogique. Le dessin était vraiment son outil et son monde. Sa production est considérable. Il se souciait assez peu de son avenir. C'est un monde où on ne pense pas aux livres. Ça, c'est une étrangeté pour nous. On se dit, mais tout ça aurait pu donner naissance à des livres. Non, c'est un peu, si j'ose dire, comme Bach composant ses cantates, et puis la semaine d'après, on en fait une autre. Voilà, on n'est pas dans une logique de gestion et de conservation. Les originaux, d'ailleurs, de Maquet ont été peu conservés, et certains ont été détruits. Il reste aujourd'hui assez peu d'originaux, et quand on les voit, ils sont magnifiques, dans des collections privées. Dans des collections privées. Je vais m'occuper, d'ailleurs, l'année prochaine, à Cherbourg, dans un musée de Cherbourg, de rassembler le plus grand nombre possible d'originaux de Winsor Maquet pour rendre hommage à cet immense artiste. On projettera aussi ses films, etc. Mais ça sera le plus grand rassemblement de planches originales. Et là, on voit la beauté de son trait.
Benoît Peters, je voudrais qu'on reste un peu sur une des qualités très singulières de Winsor Maquet, c'est son dessin, sa mise en page, la forme même de ces planches donc, que vous avez déjà évoquées, parce qu'après tout, vous avez évoqué des dessinateurs, mais est-ce qu'on ne peut pas penser à Mucha aussi et aux grands illustrateurs de l'époque? Est-ce qu'au finalement, il a presque pas plus de génie que son art et que ce qu'il raconte. J'aimerais que vous me racontiez la liberté de la mise en page de ces planches.
Vous avez raison d'évoquer Mucha parce qu'il y a un aspect art nouveau. Mais le premier art, c'est l'exploration du médium. On a une bande dessinée naissante, une bande dessinée dont les règles ne sont pas fixées. Chez Töpffer, c'était des bandes, une seule bande de dessins noirs et blancs courant tout au long du livre. Chez Maquet, c'est vraiment l'exploration des possibilités de la page. Je me souviens d'une page admirable avec un éléphant. Et alors on voit cet éléphant s'avancer, sa trompe grandir et occuper de plus en plus ses cases verticales. Et puis Nemo et la princesse s'asseyent sur un petit trône qui a été placé sur la trompe de l'éléphant et remonte en haut de la page. Et on sent vraiment qu'il y a une compréhension de l'architecture de la bande dessinée avec une beauté soulignée par les couleurs qui fait qu'on voit tout de suite quelque chose. Je me souviens d'un mot magnifique d'un très très grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui, Art Spiegelman, qui me disait « Winsor Maquet est un génie de la bande dessinée malgré son talent du dessin ». Ça pourrait sembler paradoxal, mais ce qu'il voulait dire, c'est que, enfin je crois, pour ce que j'en ai compris, c'est que quelquefois, un très grand dessinateur est un virtuose et transforme chaque case en illustration, alors que Maquet n'oublie jamais que chaque case est une pièce d'un ensemble et qu'il faut parfois être discret, qu'il faut aussi jouer avec le texte, jouer avec la narration, l'enchaînement, la fluidité de la lecture, et donc devenir un génie de la bande dessinée, malgré son immense talent de dessinateur, en oubliant quelquefois la virtuosité au profit de quelque chose de plus important, une forme d'efficacité, de compréhension profonde de son médium. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est quand il aborde le dessin animé, il comprend tout de suite ce que le dessin animé peut faire.
Il a été un des premiers à le faire.
Ah oui, vraiment un des tout premiers. Il y a Emile Cole en France et Maquet aux États-Unis. C'est d'ailleurs très amusant parce que ça commence par une petite séquence dans laquelle il joue, une séquence filmée où il est entouré d'autres dessinateur qui filme muet et il fait le pari qu'il peut réaliser tout seul un dessin animé. Alors tous ses collègues se marrent et puis il se fait livrer des pots d'encre, des piles et des piles de papier et on voit le dessin s'animer et donc il y a ce jeu avec le médium et s'il a inventé son personnage le plus célèbre en dessin animé qui est Gertie le dinosaure, c'est parce que quand il avait fait Little Nemo en dessin animé, les gens croyaient que c'était des trucages à partir d'un vrai petit garçon. Alors il s'est dit à un moment, comme on ne le croyait pas ou qu'on faisait mine de ne pas le croire, il s'est dit, si je fais les aventures d'un dinosaure, là au moins on comprendra que c'est bien du dessin qui est animé.
Est-ce que vous ne diriez pas, Benoît Peters, que d'une certaine façon, vous dites depuis tout à l'heure, c'est un génie du dessin animé, mais d'une certaine façon, et aussi parce qu'il ne veut pas faire le malin, comme vous l'expliquiez très bien, alors qu'il a beaucoup de talent, il invente quand même sa forme. Et de même qu'on peut dire que Proust, ça n'est pas de la littérature, mais du Proust, Winsor Maquet, c'est au-delà de la bande dessinée, et c'est du Winsor Maquet, c'est-à-dire il a une forme à lui. Il y a des dessins qui apparaissent en pleine page alors que c'est aberrant et que ça ne devrait pas être là. Et est-ce qu'au fond, il n'est pas au-delà de son genre, si le genre existe?
Je ne sais pas, parce qu'à cette époque-là, la bande dessinée américaine est d'une liberté extraordinaire. Et il y a d'autres très grands artistes qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est vrai que Maquet est le plus connu de cette époque, avant la Première Guerre mondiale, hein, disons. Il est un peu le Méliès de la bande dessinée et du dessin animé. Mais par exemple, le futur peintre Lionel Feininger fait à la même époque de grandes pages qui sont elles aussi admirables. On aura à la même époque Crazy Cat de Harriman. Et donc, c'est une époque où la bande dessinée américaine n'est pas encore dévolue aux super-héros, à une volonté d'accrocher le grand public par de la violence. On est dans une sorte de poésie graphique de premier âge. Mais on pourrait dire la même chose pour Fache de Cité Méliès. On pourrait dire un peu la même chose. Il y a un premier âge d'innocence du cinéma aussi. Et puis, ça se codifie. On commence à faire des drames psychologiques, des westerns, des films policiers, etc. Et puis le parlant va encore s'agir. Le business qui arrive. Dans le dessin animé, Disney va aussi codifier la chose, fixer les publics. Là, on est dans un moment, au fond, expérimental, mais pas expérimental comme nous l'entendrions un petit peu prétentieusement, mais spontanément expérimental, puisque ce n'est pas un intellectuel.
Non, c'est un fantaisiste.
Voilà, je citais Freud. Freud s'est intéressé à un imitateur de Mackay. Il y a une page de bande dessinée dans l'interprétation des rêves d'un dessinateur hongrois très marqué. Mais voilà, on aurait aimé une conversation entre les deux sur l'art du rêve.
Et plus encore,
la condensation
avec Jung,
et le déplacement.
Avec Jung encore
peut-être
plus,
avec
non
Jung aussi. Quoi qu'il, ce que Freud appelle le travail du rêve, dans la Traumdeutung, n'est pas bien loin des figures graphiques qu'utilise Winsor Mackay, sauf que Winsor Mackay les utilise dans la jubilation et sans avoir l'impression de faire science.
Quels seraient actuellement, Benoît Peters, les descendants de Winsor Mackay? Alors, vous allez me dire, j'imagine, Philémon par Fred ou des gens comme ça, mais même en dehors de la bande dessinée, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un film comme La Nuit du Chasseur de Charlton n'est pas d'une certaine façon du Winsor Mackay au cinéma? Est-ce qu'il n'a pas eu une influence en dehors de la bande dessinée?
Oui, puis il y a dans le cinéma beaucoup de gens, de Terry Gilliam à Burton, enfin il y a plein de cinéastes qui l'ont utilisé. En bande dessinée, on peut aussi penser à Marc-Antoine Mathieu. Vous citiez Fred, Moebius était un immense admirateur.
Il n'a pas fait une suite, Moebius.
Il a essayé, oui. Mais alors, il ne faut pas faire de suite. C'est trop beau, c'est trop parfait. On peut lui rendre hommage, on peut continuer le rêve. Par exemple, David B., un autre auteur de bande dessinée qui a développé beaucoup la thématique du rêve en BD, mais pas reprendre le personnage de Nemo. Je n'y crois pas trop. Je pense que, oui, c'est quelqu'un qui a dû avoir de l'influence sur beaucoup de gens, et puis peut-être donner de la joie à des générations d'enfants. Je crois que l'œuvre, tout en étant très inscrite dans ce début du siècle américain, peut continuer à parler aux enfants d'aujourd'hui.
Ma dernière question, Benoît Peters, pour finir, dans un monde, vous parlez de début du siècle, nous sommes dans un autre début du siècle, et dans un début du siècle qui pourri sous le réalisme, est-ce que Little Nemo n'est pas le contre-héros qu'il nous faut? Est-ce que c'est pas ça son secret?
C'est vrai que de ce point de vue-là, c'était un beau modèle. Et puis dans la modestie de ce nom que vous évoquiez tout au début, ce petit personne, ce petit rien du tout, qui arrive quand même à faire de grandes choses et à traverser des mondes et à entrer dans les imaginaires, je pense que voilà, ça reste de ce point de vue-là une belle école et une preuve à presque à lui tout seul que la bande dessinée n'est pas un art mineur, puisqu'il peut donner naissance à une œuvre de cette ampleur-là. Il suffit, il y en a deux ou trois comme lui, qui suffisent à justifier la bande dessinée en tant qu'art, tellement ils l'ont bien utilisée. Alors après, il y a eu des choses beaucoup moins fortes, plus banales, ou qui auraient pu s'exprimer dans d'autres médiums. On peut difficilement imaginer Little Nemo dans une autre forme que celle de la bande dessinée.
C'était Secret Professionnel, le 205e. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Claude Niort. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.